Hello, ici Liv, la créatrice de jemecasse.fr. Alors aujourd'hui, je suis ravie parce que je vais vous présenter Ona Mayoko, qui est la créatrice de l'atelier Supernaturel. Supernaturel est un atelier de cuisine ici à Paris où Ona vous apprend à cuisiner bonnes choses, bien saines, végétariennes, dans un superbe cadre. Donc, comme vous l'avez deviné, Ona n'a pas commencé par la cuisine, elle s'est cassée. Et aujourd'hui, elle va nous raconter comment elle est passée d'un métier à l'autre, comment elle a créé ce lieu qui était un peu ce dont elle rêvait et quels sont ses projets pour l'avenir. À la fin de l'enregistrement, n'hésitez pas à lui poser vos questions dans les commentaires, on y répondra au plus vite. A tout de suite! Bonjour Ona. Donc, tout d'abord, je vais te demander de me raconter un peu comment tu as créé Supernaturel.
D'accord.
Te parler de toi, ce que tu aimes, enfin un peu de ta vie et comment tout ça s'est créé et ce que c'est surtout.
Mm-hmm. Ok. Alors, donc voilà, j'ai bientôt 31 ans. Ou 32, je sais plus. Non, je suis en 82, donc je vais avoir 32.
D'accord. Voilà.
Donc moi j'ai un parcours plutôt scientifique, donc j'ai un master de biologie du Muséum d'Histoire Naturelle, j'ai étudié la biologie de l'évolution, et puis depuis mes 15 ans je suis végétarienne, et j'ai été élevée dans une famille où le végétarisme est assez très bien accepté, disons qu'il y a... Il y a une personne qui est végétarienne, c'est mon grand-père. Les autres personnes sont plutôt, ne mangent pas beaucoup de viande. Voilà. Et disons que mes grands-parents avaient ouvert un magasin bio, en fait, à la fin des années 70. Et ensuite, ils en ont eu chacun un, parce qu'ils se sont séparés. Et moi, en fait, j'ai passé mon enfance dans le magasin bio de ma grand-mère.
Super.
Voilà. Donc, en fait... on peut dire que je suis un peu tombée dans la marmite en ce qui concerne le végétarisme et le bio, en fait. J'ai vu arriver des produits phares comme le quinoa, le lait de riz, enfin voilà, vraiment des produits stars de la bio aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que ça arrivait tout juste, c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Et donc voilà, j'étais dans cet environnement-là. Mais c'est vrai que j'y suis réellement venue de façon entièrement personnelle à partir du moment où j'ai vécu seule et où j'ai fait mes choix de consommatrice, en fait.
D'accord.
Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis réellement questionnée, que j'ai questionné toutes ces questions-là. Bon, le végétarisme était déjà assez acquis et je ne me voyais pas du tout retourner en arrière parce que ça me convenait de façon intime. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu mieux comprendre pourquoi je l'étais, en fait, poser des idées claires, même développer le questionnement par rapport au végétarisme. Et c'est pourquoi je suis devenue végétalienne plus tard, c'est-à-dire que je refusais en fait l'exploitation animale sous toutes ses formes. Voilà. Et donc voilà, en devenant un peu adulte dans la société, j'ai décidé pour ma part de consommer uniquement en bio parce que ça me convenait du point de vue du mode d'agriculture, de fabrication, pour des raisons écologiques, pour des raisons d'économie d'énergie, de réduction de pollution, etc. Pour aussi donner mon argent à des gens qui... qui aiment la terre,
ouais.
Voilà, qui la respectent, qui s'en soucient. Voilà. Donc ça, c'était important pour moi. Et donc, mes études ont été assez longues parce que j'ai eu... beaucoup de choses me plaisaient, en fait. Et ça, c'est depuis toujours. Même pendant le lycée, j'ai fait un bac scientifique, mais j'ai failli passer de première S à terminale L parce que j'aimais beaucoup la littérature, la philosophie.
Je connais ça.
Voilà. Donc, j'ai toujours été attirée par beaucoup de choses et ça a toujours été un problème de faire des choix.
Oui.
Donc voilà, pendant mes études, j'ai commencé dans les sciences. Je me suis ensuite orientée vers les arts plastiques, la médiation culturelle. Et puis, je suis revenue aux sciences.
D'accord.
Voilà. dans ce contexte du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est un lieu extrêmement riche, passionnant, rempli de personnes passionnées, avec une conscience écologique assez forte. Et c'est vrai que c'était un lieu qui m'a vraiment plu. J'ai adoré mes études et aussi terminé mes études là-bas. Et donc, voilà, après mon master, j'ai décidé de travailler, de pas partir en thèse, en fait, de ne pas poursuivre, même si voilà, mes résultats auraient pu m'autoriser le début d'une thèse. J'avais envie de choses concrètes, quoi, déjà, de pouvoir agir quelque part. Mais j'ai été un peu déçue. J'ai travaillé un an et demi dans ce domaine.
Tu faisais quoi exactement ?
Alors, j'étais chargée de projet, chargée d'études dans le cadre d'un projet européen qui développait la taxonomie. Et la taxonomie, c'est la science qui permet de décrire de nouvelles espèces, en gros.
D'accord.
En fait, moi, je faisais un peu le lien entre les chercheurs qui décrivent de nouvelles espèces et puis les bioinformaticiens qui sont en charge de développer des programmes pour ces chercheurs-là, que ce soit à partir de leur collecte sur le terrain jusqu'à la publication de leurs résultats. Donc voilà, je faisais un peu le lien. Enfin, c'était un job assez intéressant dans la mission, sur le papier, le projet était intéressant. Mais je me sentais je me sentais un peu perdue dans ce job-là. Par rapport un peu au manque d'organisation, par rapport au manque d'encadrement, en fait.
D'accord.
Et finalement, même si c'est pas une boîte comme une autre, c'est le muséum, c'est quand même, il y a des horaires de travail qui sont agréables, il y a un lieu qui est agréable, tout ça. Malgré tout, il y a une hiérarchie, en fait, avec les contraintes qui sont liées à une hiérarchie, c'est-à-dire, si on n'a pas des indications claires venant de notre supérieur, c'est pas facile de faire notre travail. C'est juste un exemple, hein, voilà. Mais en gros, c'était un peu ça le problème. Je me sentais pas assez utile. Mon travail n'était pas assez concret et je trouve que j'arrivais pas à exprimer ma créativité aussi.
D'accord.
Ça, c'était le plus gros problème. C'est-à-dire que moi, je m'éclatais quand je devais faire une présentation PowerPoint pour un congrès, parce que là je pouvais mettre en forme, là je pouvais faire passer des idées de façon faire passer des messages, faire passer des idées de façon très très concrète, avec des images, avec des couleurs. Là c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, en fait. Mais bon, c'était pas malheureusement la plus grande partie de mon travail. Ça arrivait que ponctuellement. Donc voilà, mon contrat, j'étais contractuelle. Hein,
donc toujours dans le cadre du musée, voilà. Tu avais toujours été avec eux.
C'est ça. Et mon contrat se terminait parce que j'étais en CDD. Et je me suis posé assez naturellement la question de faire autre chose. Et c'est vrai que sans trop savoir vers quoi j'allais me diriger, je savais donc que je voulais faire quelque chose de plus créatif. Je voulais monter mon entreprise.
D'accord.
Pour être, on va dire, le seul maître à bord, mais choisir avec qui je travaille.
D'accord. C'était ça le plus important pour toi, choisir avec qui tu travailles ?
Et l'aspect créatif.
L'aspect créatif.
Choisir avec qui je travaille, c'est-à-dire voilà, vraiment avoir des partenaires. Voilà, mais je choisis les personnes avec qui je travaille et je maîtrise mon activité, en fait.
Oui.
Voilà. Donc, et je savais que je voulais faire quelque chose, évidemment, dans le domaine du développement durable, mais ça n'allait pas plus loin en termes de... J'avais pas vraiment d'idée, et le développement durable, c'est très très large. Donc,
Ce que tu faisais avant touchait à ça ou pas du tout ?
Dans mon esprit, oui. Mm-hmm. Dans mon esprit, oui. Mais finalement, ça restait dans le domaine de la recherche, voilà. Et il y a évidemment des applications très concrètes de la recherche en taxonomie, mais disons que on voit pas les résultats de façon ultra immédiate non plus. Voilà.
D'accord. Ouais.
Donc c'est concret, mais c'est pas immédiat comme Donc voilà, c'était un peu ces idées-là qui me qui me passait par la tête quand la fin de mon contrat est arrivée. J'ai failli prolonger un petit peu, c'est ce qui était prévu, mais j'avais été un peu déçue parce qu'on devait me prolonger, je sais pas, 6 mois, puis finalement on me proposait que 3 mois, on m'avait promis une augmentation, puis finalement je l'avais pas eu, donc c'était un petit peu... C'était un petit peu décevant et finalement je me suis saisie de ces petites contrariétés finalement pour me dire bon, je pars.
Ouais.
Voilà. Ça a été assez difficile parce qu'au moment où j'ai décidé ça, j'ai eu une possibilité de recrutement en fait, également au muséum, là sur un poste qui m'intéressait vraiment. Sur un poste qui m'intéressait vraiment, j'avais passé l'entretien, ça s'était très bien passé, c'était vraiment top, ça collait à ma formation, ça collait à mes envies, c'était beaucoup plus pérenne qu'un CDD, ça allait se transformer en vrai poste d'ingénieur d'études. Donc là, ça a été la dernière tentation en fait.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, je le fais pas?
Ça a été un choix extrêmement difficile à prendre qui m'a qui m'a vraiment bouleversée. Pendant 3 jours, j'étais complètement perdue. Quoi. Ouais. Je ne pensais qu'à ça, j'étais dans une angoisse terrible. Ouais. Parce que j'avais l'impression de me dire, là ma vie peut changer,
ouais.
Et est-ce que j'y vais ou pas. Ouais. Et finalement... grâce à mon entourage qui était assez ouvert, confiant, mon conjoint de l'époque qui me faisait confiance et voilà, et aussi parce que j'avais cette possibilité d'une période de chômage indemnisée, c'est quand même rassurant voilà, quand on souhaite monter sa boîte, je m'étais dit bon voilà, ce serait quand même, on tente, on verra dans un an, je me laisse un an, on voit ce que ça donne, voir comment je me sens, qu'est-ce qui me plaît. Donc ça a été le dernier frein en fait. Et puis voilà, ensuite c'est parti. Quand j'ai fait le choix, je me suis sentie absolument libérée. C'était chouette d'avoir pu trancher. Je me sentais vraiment soulagée.
Ouais.
Voilà.
Et là, tu n'avais pas encore d'idée de ce que tu allais faire.
Non.
Ouais.
Non.
Et comment l'idée t'est venue alors, une fois que tu savais que tu voulais faire ces 3 choses?
Alors oui, la cuisine est venue parce que je cuisinais depuis longtemps, enfin voilà, depuis un peu toujours, depuis que je vivais seule. J'adorais ça, c'était plutôt qu'une contrainte, c'était vraiment un immense plaisir de me mettre à cuisiner le soir. C'était vraiment une détente, finalement un moment en créatif quoi. Et puis bah, autour de moi, les gens appréciaient, donc c'est vrai que ça encourage. Mon conjoint de l'époque aimait bien cuisiner également, donc il y avait une émulation. On écrivait nos recettes dans un carnet, c'était sympa.
Tu inventais tes recettes à l'époque?
Oui, j'inventais déjà mes recettes. Et puis il y avait des blogs que j'aimais bien, notamment bah, le blog de Cléa qui est très connu dans le milieu bio, végé. Puis ces livres aussi, les livres de Cléa chez La Plage. Donc je me disais, moi aussi j'ai envie de partager, moi aussi j'ai envie de créer, de montrer des recettes sympas, des photos sympas, peut-être un jour écrire des livres. Donc au départ ça devait être quelque chose d'annexe, j'avais envie de créer mon blog parce que j'avais plus de temps. Et réfléchir à côté à ma création d'entreprise.
Qui ne serait pas liée à la cuisine.
Voilà, au début, ce n'était pas ça. C'était, je fais mon blog, là j'ai un peu de temps, je vais me lancer dans l'aventure. Et quand j'ai vu que je cuisinais toute la journée avec un immense plaisir, là, je me dis, il y a peut-être quelque chose
à faire.
C'est peut-être quelque chose qui peut me convenir. Et donc, assez rapidement, finalement, je me suis dit que j'allais... tenter le coup dans la cuisine quoi. Donc ça s'est matérialisé par une inscription au cours d'adultes de la mairie de Paris pour préparer le CAP de cuisine.
D'accord.
De pâtisserie. Voilà. Préparer le CAP de pâtisserie. Alimenter mon blog, bien sûr. Faire des contacts associatifs, notamment avec l'Association Végétarienne de France avec laquelle je collabore toujours. donner mes premiers ateliers par ce biais.
Et tu les faisais où, tes ateliers, à l'époque ?
Alors, au tout début, j'ai fait quelques ateliers avec l'AVF dans des locaux associatifs, en fait.
D'accord.
Mais ensuite, rapidement, j'ai donné mes cours dans un très chouette endroit qui est le logement et l'atelier de ma tante, qui est artiste peintre et qui a une conformation assez, assez idéale pour donner des cours de cuisine, avec une cuisine ouverte assez grande et un salon assez grand, tout ça. Donc j'ai donné mes premiers cours de cuisine là-bas.
D'accord.
Voilà.
Et, pardon. À l'époque, tu t'es dit, je vais tenter le coup. Mais est-ce que tu t'es dit, j'essaie, je vois, ou j'y vais à fond, quoi, je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'était quoi ton état d'esprit ?
Ah, mon état d'esprit, c'était que je le faisais à fond.
Voilà. D'accord.
Mais j'étais très lucide par rapport au fait que j'avais se lancer dans la cuisine. Il y avait plusieurs aspects de mon travail et qu'il fallait que je les teste, en fait. Il y avait les cours de cuisine, l'envie d'écrire des recettes, mais sans trop savoir comment j'allais pouvoir finalement... les vendre ou les publier ou quoi, enfin, fallait que je voie par quel biais, enfin, voilà. J'avais envie également de pouvoir partager mon expertise, donc avoir une activité de conseil. Et voilà, tout ça au début, il fallait créer des contacts, tester, voir si ça me plaisait moi, voir si les marchés étaient...
réceptifs.
Voilà, c'est ça. Donc ça a commencé surtout par les cours de cuisine.
D'accord.
J'ai été suivie très rapidement par le pôle emploi dédié aux créateurs d'entreprises, CréaPass. Finalement, ils ont vu que c'était une petite entreprise qui ne demandait pas des investissements massifs. Ils m'ont dit, on ne va pas faire le gros suivi qui dure des mois avec... Démarrer, vous n'avez pas besoin de matériel, énorme, tout ça. Démarrer tel que vous avez déjà commencé de le faire et puis vous verrez, quoi. Donc bon, je peux pas dire que j'ai été très bien accompagnée.
D'accord.
Mais c'était sympa de voir que mon idée plaisait, qu'ils m'ont jugé capable de la mettre en place. Ils ont été plutôt rassurants, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Et pourquoi te diriger vers les cours de cuisine et pas vers, par exemple, je sais pas, une activité de traiteur chez les particuliers ou...
J'y pensais également.
Ouais.
Ça faisait partie... Je me disais, cuisine à domicile, pourquoi pas, traiteur. C'est quelque chose que je fais de temps en temps.
D'accord.
Mais disons que... Et d'ailleurs, j'avais passé notamment le CAP de pâtisserie que j'avais réussi à obtenir dans ce but-là. Parce que c'est vrai que pour faire traiteur, il faut avoir ce diplôme-là, enfin pâtisserie ou cuisine. Je ne l'excluais pas au début, mais disons que j'ai rapidement compris que ce ne serait pas mon activité principale, parce qu'on est vraiment les mains dans la cuisine, c'est très physique, ça demande un réel équipement, un labo en bonne et due forme, avec des règles, etc. Donc là, en fait, je privilégie ponctuellement des prestations de traiteur, mais que je fais sur place, en fait.
D'accord.
Voilà, quand tu fais sur place. Voilà, c'est ça.
Donc, pour toi, c'était plus le côté transmission, conseil qui t'intéressait ?
Voilà. Disons que c'était plus facile à mettre en place. Les premiers clients se sont montrés très, très enthousiasmés.
Ça s'est passé quand, ça, pardon ?
Alors ça s'est passé... en 2012, en fait.
2012, donc ouais. Il y a 2 ans.
C'est ça, en 2012. Et donc, j'ai commencé à donner des ateliers de plus en plus régulièrement chez ma tante.
D'accord.
Et à décliner aussi. Par exemple, je faisais des enterrements d'une jeune fille, de temps en temps, des prestations un peu plus à la carte, quoi. Voilà. Ça, c'est sympa également. Mais bon... Quand on souhaite développer son activité, c'est pas facile d'être chez quelqu'un, en fait. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un grand appartement qui est une colocation. Et c'est vrai que d'utiliser la cuisine pour toute une partie du week-end ou tout un dimanche, ça dérange les gens. Et voilà. Et puis, il y a toujours des allers-retours avec mes ingrédients, porter les choses, le matériel et tout. Donc, c'était assez épuisant, finalement.
D'accord.
Et donc, je pense. J'ai assez rapidement pensé à la possibilité d'avoir un local commercial. Mais disons que sans moyens financiers importants, c'était juste une idée un peu vague, quoi. Mais voilà, je regardais quand même, je m'informais, disons, des tarifs et de ce qui existait à Paris, et à quel tarif, à quelles conditions, quelle surface. Je jetais un œil distrait, voilà, sur les annonces. Et puis un jour, dans ma boîte mail, j'ai reçu une alerte, une annonce absolument, qui paraissait absolument alléchante, voilà, d'un endroit grand, bien situé, pas trop cher par rapport à la surface, mais bon, même si voilà, c'est quand même un coup. Je me suis dit, bon, on tente le coup. Ouais. Donc et c'est là que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai été la première à appeler, la première à visiter.
D'accord.
Et mon dossier a convenu. J'ai griffonné un business plan.
D'accord. Voilà. Donc ils sont partis sur le potentiel de. Parce que tu venais de commencer, donc ils ont tenu en compte le potentiel de ton business plutôt que les résultats.
Oui, tout à fait.
Ce qui est super, parce que c'est un peu rare.
Ouais, c'est rare.
Génial.
Mais.
Et du coup, première visite, qu'est-ce que tu t'es dit ?
Je me suis dit qu'il y avait du travail en termes de travaux. Ouais. Mais que le lieu était parfait, en fait, pour ce que j'avais envie de faire.
Et qu'est-ce que ça a changé une fois que tu avais ce lieu ?
Ça a tout changé. Parce que, déjà, il faut savoir que pour pouvoir faire déjà, du point de vue financier, il a fallu quand même apporter pas mal d'argent, parce qu'il fallait payer une agence bien cher. Il fallait apporter un dépôt de garantie de 3 mois de loyer. 6 mois.
Wow.
6 mois sur un... 6 mois sur un loyer local commercial, ça fait cher. Ouais. Et en fait, là, j'ai en très peu de temps, j'ai appelé mes amis, ma famille, et j'ai dit j'ai besoin d'argent.
Ouais.
Et là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pu réunir la somme, en fait. Plus mes petites économies. Mais vraiment, mes toutes petites économies, voilà, de chômeuse en fin de droit qui venait à peine de commencer son activité, avec un atelier par mois, quelques heures encore de travail de salarié dans une biocoop, dans un magasin bio, enfin voilà, c'était mes seules économies. Bon. Donc voilà, j'ai réuni tout ça et je voyais que ça faisait le bon compte pour pouvoir au moins entrer dans les locaux, mais ensuite il fallait financer des travaux.
Ouais.
Et là, j'ai lancé une campagne, une collecte KissKiss Bank, donc financement participatif. Et là, ça a été super, parce que il y a eu un écho formidable, en fait.
D'accord.
Donc, il faut dire que le milieu du végétarisme est rempli de personnes très très engagées. Vraiment, on se serre les coudes. Il y a ce côté voilà militant, ce côté ce soutien de la part des végétariens, des végétaliens, des véganes a été vraiment très, vraiment formidable.
C'est des gens que il y en a. Enfin, quelle est la proportion de gens que tu connaissais un peu déjà et celles que tu connaissais pas du tout ?
On va dire 80% de personnes que je connaissais pas du tout, quoi.
Qui t'ont connue par la campagne.
Voilà. Super. Via les relais Facebook, voilà. Mmh. Donc au départ, il y a le noyau dur. La famille, les amis, les collègues, les ex-collègues que j'ai évidemment sollicité pour cette campagne, pour pouvoir la lancer, en fait.
Ouais.
Donc, elle a démarré très fort parce que je bénéficiais d'un soutien vraiment de mon entourage et de personnes, des gens qui me connaissent, qui croient en moi. Donc ça, c'était déjà extraordinaire.
Mmh. Ouais.
Et voilà, des amis qui ont mis des sommes qui sont chouettes, quoi, qui dépassaient la centaine d'euros. Mmh. Donc ça a fait vraiment un très bon noyau dur. Et ensuite, ça a été très bien relayé sur les réseaux sociaux, via mes contacts associatifs, le travail que j'avais déjà fait avec l'Association Végétarienne de France, par exemple, mais d'autres également. Et là, ça a été... Et puis des gens qui tombaient sur la collecte, comme ça, qui étaient branchés bio, qui étaient branchés écolo, qui trouvaient que le projet était sympa. J'avais essayé de bien préparer cette collecte en faisant une petite vidéo sympa en stop motion, les images là qui font un petit film en fait. Ouais. Je m'étais donné du mal pour faire ça, j'avais passé vraiment beaucoup de temps là-dessus, faire quelque chose d'attractif pour expliquer mon enthousiasme et voilà. Puis il faut dire oui que j'avais déjà écrit un livre de cuisine.
D'accord.
Et que j'avais déjà donné pas mal d'ateliers, donc je pense que ça m'a donné une certaine légitimité. Mmh. Et puis je suis une personne souriante aussi.
Ouais.
Et j'ai la pêche et je me dis que j'ai essayé de montrer ça dans
la vidéo.
Voilà, même si évidemment j'ai des moments de découragement comme tout le monde,
ouais.
Et des moments des incertitudes, voilà, évidemment, hein, mais ouais. J'ai essayé de montrer que je suis une fille sympa.
Ouais, et puis tu kiffes ton projet, quoi, c'est surtout
oui,
ça.
Voilà.
C'est
ouais.
Enthousiaste par rapport à ça.
Voilà.
C'est génial. Donc du coup, la campagne
a vraiment bien marché. J'ai récolté 240% du montant escompté.
Ouais.
Et ça m'a permis, et heureusement qu'elle a marché, parce que j'ai eu vraiment besoin de cet argent. Ouais. Notamment parce qu'il a fallu changer la chaudière, et ça c'est 2500 euros d'un coup.
Wow.
Mais pour tout le reste, ça a été vraiment des travaux à l'huile de coude, quoi. C'est-à-dire que voilà, on était trois, avec mon conjoint, ma tante et moi-même.
Mmh.
C'est nous qui avons vraiment tout fait, quoi.
On avait tout fait.
Ouais. De l'électricité jusqu'à la plomberie,
et
en passant par le local ne ressemblait vraiment pas à ça, je te montrerai les photos tout à l'heure.
D'accord.
On a fait un travail de dingue, et en plus moi j'étais un peu moins présente physiquement sur les travaux, parce que j'avais aussi des ateliers à donner à gauche à droite, des projets encore à mener à l'extérieur, donc c'est vraiment ma tante et mon conjoint qui ont assuré. Et ça, c'est une chance immense que j'ai d'avoir des personnes qui m'ont soutenue à ce point, en fait, qui ont passé autant de temps. Donc, on a passé un mois et demi sur les travaux. Et on ne pouvait pas plus, parce qu'il fallait que mes ateliers débutent, que l'argent rentre, le loyer, il fallait le payer.
Ouais.
Donc voilà comment ça s'est passé. Et heureusement, tout était prêt à temps.
C'était quand le lancement ?
Fin janvier.
Là,
ouais.
Wow. Génial.
Ouais.
Fin janvier, lancement du nouvel atelier.
Ouais.
Super. Et là, ça se passe comment?
Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que les gens qui viennent repartent ravis. Donc ça, c'est super. Tout le monde trouve que le lieu est plein de bonnes énergies.
Et c'est top. Moi, j'aime beaucoup.
Ouais, merci.
Ouais.
Et donc non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ensuite, la difficulté que je rencontre actuellement, c'est typiquement, voilà, quand on est seul dans son entreprise, c'est d'être au four et au moulin, quoi. C'est-à-dire faire mes courses, donner les ateliers, aussi donner des ateliers ailleurs, je fais un peu de conseils.
Ouais.
J'essaie de ne pas lâcher la création et de continuer d'écrire des recettes, de continuer d'écrire des livres. Et puis après, y a l'aspect faire ma compta, faire ma com, faire le marketing, enfin tout
ouais,
ça. C'est...
Tu fais tout ça toute seule.
Ouais.
Tu t'as jamais eu envie de prendre un associé?
Dans un premier temps, j'ai une personne qui m'aide, une stagiaire en fait qui m'aide, une stagiaire bénévole qui m'aide quelques heures par semaine, mais c'est déjà énorme de pouvoir en parler avec quelqu'un, d'avoir son avis, de pouvoir déléguer un peu certaines tâches. Ça c'est vraiment génial. Donc ça c'est la première étape, voilà. Ensuite m'associer, j'ai jamais pensé à vrai dire, parce que on verra. Je suis fermée à rien.
Ouais.
Je suis fermée à rien, mais j'aime bien l'idée aussi que ça reste mon projet, avec ce côté un peu artisanal aussi, entre guillemets, mais parce que je suis plutôt en activité libérale, enseignement, formation, conseil, mais ce côté maîtriser, tout maîtriser en fait.
Ouais. Voilà. Ça c'est important pour toi, c'est spécial.
C'est important pour moi, ouais, ouais. Même si on peut dire que concrètement, je maîtrise pas tout à 100%. Oui. Voilà, il y a plein de choses, voilà, qui mériteraient que j'approfondisse mes connaissances, que je creuse certaines choses, notamment tout ce qui est voilà, compta, tout ça. Mm. Bon. J'assume cet aspect un peu, autodidacte sur plein de choses. Ouais. J'assume. Même si, effectivement, beaucoup de personnes auraient fait les choses, j'imagine, différemment.
Oui. Voilà. Mais du moment que c'est toi et que ça vient de toi, c'est le plus important.
J'imagine, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, après, on verra comment ça se passe. Là, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir faire venir plus de monde, effectivement, mieux remplir mes ateliers, en donner plus. Mais bon, bah voilà, ça, j'y travaille, quoi.
Ouais. Ouais.
Il y a eu déjà des relais dans la presse qui sont positifs et qui ont pu faire découvrir l'atelier à pas mal de monde. La collecte KissKissBankBank a fait venir des gens aussi parce qu'il y avait certaines contreparties, c'était des ateliers de cuisine.
D'accord.
Donc les gens ont pu voir par eux-mêmes voilà, l'atelier. Et puis le bouche-oreille, c'est important aussi dans ce type d'activité.
Combien d'ateliers tu fais à peu près, à quelle fréquence?
Alors, je fais des ateliers chaque semaine, en fait. Chaque semaine, le jeudi soir. Et tous les 15 jours, des ateliers plus longs le dimanche.
D'accord.
Donc ça, c'est mon rythme de croisière qui peut être amené à voilà,
monter, à changer.
Ouais, voilà.
Et après, tu disais que tu as toutes tes autres activités.
C'est ça, je donne des ateliers ailleurs, en fait, notamment dans le cadre associatif. Des ateliers avec les enfants dans un café littéraire associatif à la porte de Montmartre qui s'appelle Le Petit Ney, comme le boulevard Ney, N-E-Y. Voilà, des ateliers avec les enfants là-bas, enfin avec les enfants, intergénérationnels, enfants comme adultes. Ça c'est sympa. Je joue à la cuisinière aussi là-bas de temps en temps, une fois par mois. Je fais un repas pour une cinquantaine de personnes.
Bon,
ça j'aime bien.
Ouais.
C'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Je fais donc du conseil. Je m'occupe du site web d'une biocoop.
D'accord.
Une biocoop qui est dans le 19e, Canal Bio, sur les bords du canal. Je fais du conseil dans cette biocoop aussi, c'est-à-dire que voilà, de temps en temps, je suis en magasin, je crée des recettes avec les produits qui m'inspirent pour montrer aux clients ce qu'on peut faire. Et puis je les renseigne sur les produits, je leur donne des idées de cuisine. Ouais, voilà.
Super.
Et puis je m'occupe de leur site web aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire montrer des recettes, des astuces. Ouais.
C'est un super environnement pour partager ce que tu fais.
Quoi. Ouais. Et puis c'est une biocoop qui est vraiment géniale. C'est la première biocoop qui a ouvert ses portes Paris Intramuros en 95 ou 96, je ne sais plus. C'est des gens qui sont extrêmement engagés. Et ça fait plaisir de travailler avec les gens. Ça a pu garder ce lien aussi avec les produits bio, avec les commerçants qui font ce travail. Et mes collègues là-bas qui sont très chouettes. Donc voilà, c'est sympa.
Et qu'est-ce que tu vois Supernaturel devenir? Est-ce que tu te vois faire plus d'ateliers encore ou devenir un peu un point de rencontre pour les gens qui s'intéressent au végétarisme et...
Ouais. Alors oui, le but c'est de développer effectivement la fréquentation du lieu par des ateliers, par des rencontres. Mais mon aspiration personnelle profonde, c'est vraiment de continuer de développer la création.
D'accord.
Parce que c'est vraiment c'est ce qui m'a amené, je pense, à ce métier-là, et c'est ce qui va faire que je vais y rester longtemps, je pense.
Ouais.
C'est la création. Création, transmission, via l'écriture de recettes, imaginer des recettes, les écrire, les photographier, c'est vraiment quelque chose qui me porte.
Super. J'ai deux dernières questions. La première, c'est est-ce que... En fait, peut-être trois. La première, c'est est-ce que tu as eu un déclic par rapport au lancement de ton projet? parce que tu aimais faire la cuisine, tu savais que ça te plaisait. Est-ce que tu as eu un moment T où tu t'es dit, c'est ça, je fais ça?
Oui, je pense que c'est le moment où j'ai vu que passer mes journées à être au contact de ces beaux ingrédients bio, de cette cuisine végétalienne que j'adore, il y a eu vraiment une, je me suis sentie à ma place.
En fait. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et finalement, pour moi, le bonheur, c'est trouver, à mon sens, c'est vraiment trouver sa place, voilà, dans le monde, dans la société, mais dans le monde. Et je me sentais à ma place quand je faisais ça. Mmh. Voilà, c'est ça qui me rendait heureuse. Ça collait avec toutes mes valeurs, en fait, en termes d'écologie, de non-violence, voilà. Et puis il y avait la créativité comme moteur, quoi. Mmh. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui a été vraiment le déclic, quoi.
Super. Et est-ce qu'au contraire, il y a eu un moment où tu as eu vraiment peur?
Peur de, par rapport à l'activité, de ne pas réussir de, ou...
Ouais.
Peut-être au moment où j'ai débuté les ateliers, en fait, et où j'avais plein d'envies, plein d'idées, de thèmes, de thèmes à développer, des thématiques sympas, de choses à transmettre, où je formalisais les choses et où j'étais en train de me faire connaître, j'avais mon site, les gens commençaient à arriver, mais je n'arrivais pas à remplir mes ateliers au début, en fait. Et donc, il m'arrivait parfois d'avoir deux personnes et me dire, là, c'est quand même décourageant, je ne vais pas faire un atelier pour deux personnes, ouais. C'est trop d'énergie, trop de travail. Donc, c'était cet entre-deux où c'était un peu décourageant. Mais finalement, cette période, elle n'a pas duré longtemps, heureusement. Donc voilà, ça n'a pas été suffisant pour me décourager. Ouais.
Super. Et dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas trop vers quoi aller?
Mon conseil, c'est effectivement est lié autour de ce que je disais tout à l'heure, de la notion de trouver sa place, en fait. Mais après, d'écouter son cœur, de trouver sa place, de vraiment de fonctionner avec cette énergie-là, en fait.
Ouais.
Mais je sais que ce qui compte quand même, c'est de voir si notre projet est en adéquation avec une demande qui existe, qui peut exister, qui peut se développer. Donc effectivement, j'incite chacun à selon son projet à bien évaluer ça, voilà. Ouais. Pour ma part, j'ai jamais eu de doute quant à même si j'ai pas fait d'études de marché poussées, voilà, j'ai jamais eu de doute par rapport au fait que la demande existait et que c'était dans l'air du temps.
Ouais.
Parce que je sentais ça autour de moi, je sentais ça sur le web. Enfin, j'avais cette conviction que on ne peut que aller vers un monde qui intègre ces questionnements sur l'alimentation, sur la consommation.
Voilà. Ouais.
Donc c'est vrai que c'était, pour moi c'était évident, mais bon, pour, disons dans un contexte plus global, j'incite chacun effectivement à questionner ses propres motivations et son adéquation disons par rapport au monde, et ensuite à voir si le projet s'insère dans quelque chose de réel, quoi.
Super.
En termes de demande.
Excellent, enfin, je note le conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager, juste comme ça, que tu n'as peut-être pas dit ou qu'on n'a pas couvert?
Je vais réfléchir 30 secondes.
Ouais, je t'en prie. Je finis mon thé.
Oui, ce que je veux dire aussi, c'est que, mon activité, elle n'est pas unique et isolée, en fait. Autour de moi, il y a des gens qui partagent ces valeurs, qui donnent des cours de cuisine, qui ont des blogs super de cuisine où vraiment on se questionne, mais en même temps on s'écoute aussi, c'est-à-dire on écoute son corps, on écoute son cœur. Et voilà, je bénéficie de cette émulation aussi. Mmh. Et je dois beaucoup à toutes ces personnes que je connais ou que je ne connais pas forcément personnellement, qui sont dans cette même énergie, en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a une personne que j'aime beaucoup qui a un blog et qui vient donner des cours ici. Aussi,
d'accord.
Qui est une amie maintenant.
Et elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Nathalie et c'est Mademoiselle Pigutte, comme Petites Idées pour Grandes Utopies, c'est son blog.
Mmh.
Et voilà, très peu de temps après moi, elle s'est lancée aussi dans les cours de cuisine. Et donc je suis ravie de la faire venir ici et de faire venir des gens talentueux qui ont des aspirations profondes qui collent avec les miennes, en fait, de pouvoir voilà, partager ça et profiter de cette énergie-là.
Voilà. Excellent, super. Merci beaucoup.
De rien.
J'ai plus de questions. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut et je suis sûre que ça va beaucoup inspirer les gens qui te liront, qui t'écouteront. Voilà.
Voilà, c'est la fin de notre interview avec Ona de Supernaturel. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré moi. L'atelier Supernaturel est un superbe lieu, c'est très joli et je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Vous trouverez les détails et les contacts d'Ona en bas de l'article ainsi que le lien vers son site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et aussi, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, mettez-les dans les commentaires, on y répondra au plus vite. Voilà, ben je vous remercie énormément d'être resté avec nous. Si vous avez aimé cet enregistrement, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'était Liv de jemecasse.fr. Salut !